Bonjour, c'est Fred, vous êtes bien sur CFM Radio dans l'émission Combien de temps encore ? Et comme tous les mois, nous abordons la cause animale et nous allons recevoir aujourd'hui une chromathérapeute pour animaux. Nous recevons aujourd'hui donc Marie Grimmer, qui est chromathérapeute pour animaux. Et donc, on va avoir un entretien avec Marie qui va nous expliquer cette pratique sur les animaux. Donc, bonjour Marie Grimmer.
Bonjour.
Voilà, donc je vais déjà vous laisser vous présenter. Et puis surtout, on a hâte de savoir en quoi consiste le fait d'être chromathérapeute pour animaux. Voilà, à vous.
Okay. Ah, d'accord. Alors, moi, je suis Marie Grimmer, je suis chromathérapeute. À la base, je suis naturopathe et chromathérapeute pour les humains. Au fur et à mesure de mon travail, je me suis décalée un petit peu vers les animaux pour des raisons personnelles d'affinité déjà avec les animaux, puisque au tout début de ma carrière professionnelle, puisqu'elle est un petit peu longue parce que je ne suis pas toute neuve, je suis à la base donc monitrice d'équitation. Donc j'ai toujours fonctionné avec des animaux. J'ai donc eu envie d'appliquer la naturopathie et la chromathérapie sur les animaux. J'ai axé tout mon travail autour de la chromathérapie qui est une technique qui me touche particulièrement, à laquelle je suis sensible, à laquelle les animaux sont sensibles. Et j'ai donc arrêté mes soins sur les humains pour me concentrer uniquement sur les animaux. Alors, globalement, on va faire une petite partie un peu théorique. Donc la chromathérapie, c'est une technique de soins qui est basée sur l'utilisation des ondes lumineuses émises par les couleurs. On sait tous que la lumière est indispensable à la vie, mais on néglige complètement l'effet des couleurs. Or, les couleurs sont en réalité notre perception des différentes longueurs d'onde de lumière, et ces différentes longueurs d'onde influencent les cellules vivantes de manière différente. Et voilà, on considère que si tout est énergie, alors tout est vibration, rayonnement électromagnétique. La matière est forcément influencée par les rayonnements électromagnétiques qui rentrent en contact avec elle. Et la chromathérapie exploite en fait simplement ce principe. Les couleurs correspondent à des vibrations ayant des vitesses, des longueurs d'onde et des rythmes différents. Elles exercent une influence physique, psychique et émotionnelle dont nous ne sommes généralement pas conscients et qui est pourtant nécessaire à notre équilibre. Alors les yeux sont tout particulièrement sensibles à ces longueurs d'onde, mais la peau est elle aussi un organe capable de les capter et en quelque sorte de les ressentir. Par rapport à ça, d'ailleurs, j'aime bien évoquer les études qui ont été réalisées début des années 1970 par une chercheuse qui s'appelle Yvonne Duplessis. Elle a travaillé sur la synesthésie des aveugles. Donc c'est hyper intéressant. En fait, elle a montré dans des conditions expérimentales que des sujets aveugles de naissance ou même devenus aveugles pouvaient classer des fiches de couleurs différentes en constituant des piles de couleurs distinctes. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les couleurs, néanmoins, le test, c'est de savoir s'ils sont en capacité de les distinguer par la peau. Certains citent une rugosité particulière, d'autres une chaleur particulière. Néanmoins, quelle que soit la perception qu'ils en ont, la plupart des aveugles de naissance ont pu classer les fiches par couleur. Et les aveugles par accident, donc les gens qui sont devenus aveugles suite à un accident, eux ont également pu les classer, mais surtout, ils ont pu les nommer. Ils ont fait des piles de feuilles rouges, des piles de feuilles jaunes, tout ça sans voir du tout les couleurs, mais juste en les ressentant.
D'accord.
Il y a des... Voilà.
C'est hyper intéressant. Enfin, c'est étonnant, quoi.
Ouais. Tout à fait. C'est assez énorme. Et il y a eu des recherches analogues qui ont été réalisées en URSS. et qui ont conclu de la même manière à l'existence d'une perception dermo-optique, ça s'appelle.
D'accord. Donc ça serait soit les critères qui sont le plus communément nommés, ça serait la chaleur et la rugosité.
Alors,
de.
Oui, voilà, ce sont des perceptions. Alors pour certains, ça va, certaines couleurs vont être vont piquer légèrement, d'autres vont les ressentir plus chaudes, d'autres plus rugueuses, plus douces, plus soyeuses. Voilà. En fait, chaque personne va les ressentir différemment, mais néanmoins va être en capacité de les ressentir, de les classer et éventuellement de les nommer s'ils ont la connaissance de la couleur.
D'accord.
Donc, c'est absolument fabuleux.
Ouais.
En fait, chaque faisceau coloré appliqué sur la peau est porteur d'un message particulier. Un message fréquentiel que les cellules reçoivent et qui les fait réagir physiquement et chimiquement.
D'accord.
En fait, voilà.
Et donc là, en fait, ça serait, ouais. C'est un peu comme de, c'est et donc vous travaillez sur des points d'acupuncture en fait au niveau de la de
ouais.
Là où vous.
Alors tout à fait, mais pas que.
Ouais, d'accord.
Voilà, les réactions. De la peau ou des cellules face à ces lumières de couleur, on va pouvoir les utiliser pour dénouer des blocages énergétiques, physiques ou émotionnels, un peu comme effectivement le ferait l'acupuncture. Donc, je reviendrai plus tard sur l'acupuncture. Hein. D'accord.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc, les fréquences colorées, en fait, elles vont agir en faisant réagir des cellules en les forçant à se remettre dans un état d'équilibre physico-chimique, cet état qui est mis à mal, soit par la maladie, par un choc, qu'il soit physique ou émotionnel. En fait, la chromathérapie, c'est une méthode d'harmonisation et d'aide à la guérison naturelle des maladies, donc par les couleurs.
D'accord.
Voilà.
Au niveau peut-être de... Alors, est-ce qu'une... Une même couleur, par exemple le bleu, est-ce qu'une même couleur a les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités sur toutes les espèces, ou est-ce qu'elle agit différemment suivant l'espèce concernée, humain ou non humain, voilà, ouais. Est-ce que le bleu agit, quelles que soient les espèces, elle va agir, je sais pas, elle a la caractéristique de calmer, soit une douleur physique, soit une douleur psychologique, voilà. Est-ce que c'est pareil, ou alors ça dépend des espèces, chaque couleur dépend des espèces ou pas?
D'accord. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, à cette question un petit peu plus tard.
Oui.
Et de finir vraiment sur la notion de couleur.
Oui, oui.
Donc, au-delà de l'aspect purement physique de la couleur, il y a des choses qui sont inscrites. C'est pas par hasard si la muleta du torero est rouge. Je n'ai rien... pour la corrida, bien au contraire, ouais. C'était un exemple.
Ouais.
Mais chaque couleur porte en elle un message que le cerveau comprend, entre guillemets. On peut penser aux grenouilles du Costa Rica, celles qui ont les couleurs les plus vives, les plus chatoyantes, vont être aussi les plus vénéneuses. On peut penser à cette variété de singes, je pense que c'est les mandrilles, qui ont les fesses et la face rouge écarlate. Et c'est ce qui leur donne ce côté si excitant pour les mâles.
Mmh.
Voilà. Donc les couleurs, elles semblent avoir un sens que la plupart des êtres vivants interprètent de façon instinctive.
Mmh.
Après, il y a le côté interprétation chez l'humain, mais qui en plus porte une dimension culturelle. Donc là, on va pas en parler.
Oui, ouais. Ça déforme, en fait. Ouais, ça déforme,
voilà,
ouais.
Tout à fait. Voilà, une chose qui est importante à savoir aussi, c'est que les soins par la couleur, avant que ça s'appelle chromathérapie, hein, mais les soins par la couleur existent depuis la nuit des temps. On a trouvé les paléontologues ont trouvé dans des grottes datant de Néandertal des ossements et des gravures peints qui ne laissaient aucun doute sur les connaissances qu'ils avaient en matière de soins par les couleurs.
D'accord.
Donc c'est très 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 ancien, ça a toujours été utilisé. Avicenne, Léonard de Vinci, Paracels, Mesmer, Goethe, Tesla, peu importe, ont tous étudié et appliqué la chromathérapie dans leur domaine respectif, même s'ils ne l'appelaient pas chromathérapie, mais c'était déjà une technique de soins.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Actuellement, la chromathérapie est utilisée tant par des thérapeutes que par des médecins dans le cadre de leur spécialisation. Je pense notamment en pédiatrie par le docteur. Alors, excusez-moi, docteur, si j'écorche votre nom, donc le docteur Pagnamanta, qui est pédiatre et qui soigne ses petits patients par la chroma. Et qui écrit énormément d'ouvrages de vulgarisation afin que ces soins entrent dans les trousses de pharmacie de chaque famille. Donc vraiment, il propose une grande ouverture par rapport à ces soins pour que tout le monde s'en empare en fait.
D'accord.
Voilà. En neuropsychiatrie, on a le docteur Agrapar également qui travaille sur les mécanismes physiologiques de ce qu'il appelle l'homme énergie. C'est un docteur qui a notamment déposé le mot chromatothérapie, donc je n'ai pas le droit de l'utiliser. Et il a également créé le CEREC, qui est un centre européen de recherche sur l'énergétique et la couleur. Voilà, donc il y a énormément de travaux qui sont faits à ce niveau-là. La Suisse également est très active à ce niveau-là. Voilà, c'est une médecine très ancienne qui est toujours d'actualité.
Ok.
Donc ça aussi, c'est intéressant.
Ouais. Voilà, donc nous sommes toujours avec Marie Grimmer, chromathérapeute pour animaux. Déjà, qu'est-ce que c'est que soigner par les couleurs? Et, et je vous laisse la parole. Donc.
Merci. Donc, vous m'aviez posé une question par rapport à même couleur, voilà, à les mêmes effets en fonction des espèces. Donc, effectivement, oui. Une couleur a une longueur d'onde spécifique qui aura les mêmes effets, les mêmes vertus, quel que soit l'être qui la reçoit. Simplement, ce sont les modes et temps d'exposition qui vont varier d'une espèce à l'autre. Tout est une question de vitesse de métabolisme. En règle générale, plus l'animal est petit, alors on parle bien des animaux à sang chaud, les mammifères, plus le métabolisme est rapide et plus courts sont les temps d'exposition. Alors, je n'ai pas encore creusé la question, mais je suis presque sûr que les temps seraient bien plus longs sur un animal à sang froid. Actuellement, je suis en garde d'une tortue qui s'appelle Lucienne.
Oui.
C'est chouette pour elle, elle va bien. C'est moins chouette pour moi parce que je ne peux pas tester ma chromatographie. Donc, si toutefois elle est malade, eh bien, je testerai, je reviendrai vers vous.
Ouais. Les serpents aussi, parce que.
Tout à fait.
Parce qu'il y a quand même l'onde. Ça travaille sur les énergies. Enfin, voilà, c'est de la même famille que les soins sur les énergies, en fait.
Alors. Tout à fait, on va être sur de la stimulation de points.
Ouais.
Néanmoins, voilà, c'est une question de métabolisme derrière. Donc, je pense que le temps d'exposition sur un animal à sang froid, que ce soit une tortue, effectivement, ou un serpent, peu importe, serait bien plus long. Mais je n'ai pas encore la réponse. Il y a peu de travaux à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de l'expérimental.
Sauf si ça... parce qu'à la limite, il peut ne percevoir que, que la caractéristique onde magnétique. Donc ça, est-ce que le métabolisme intervient beaucoup dans ce cas-là?
Oui,
d'accord.
Oui, de toute façon, puisque c'est une réaction physico-chimique, donc oui.
D'accord.
Oui.
Donc voilà, il faut trouver un petit serpent blessé. Ou... enfin, je ne souhaite pas pour lui, mais...
C'est ça, mais bon, tant qu'ils vont bien, je vais pas
les
embêter. Surtout les serpents, on va éviter.
Et sinon, donc, oui, peut-être nous présenter une séance, en fait, comment se déroule une séance, voilà, tout simplement.
Oui, alors, on va passer donc sur une séance classique. Alors, on reviendra quand même un petit peu sur les vertus des couleurs par rapport aux problèmes physiques et psychologiques.
Mais après, voilà, si vous, ou peut-être voir d'abord les vertus des couleurs en elles-mêmes, et puis une séance après, peut-être...
Voilà, on termine vraiment sur
les couleurs en elles-mêmes.
Des couleurs, puisqu'en fait, je n'ai pas complètement répondu à la question. Donc, les effets des couleurs s'appliquent donc aux problèmes physiques et aux problèmes psychologiques, mais pas forcément de la même manière. On ne les applique pas sur les mêmes zones. Pour les problèmes psychologiques, moi, je vais travailler sur les points des chakras concernés et sur certains méridiens. Pour un problème physique, je vais en priorité travailler sur l'ensemble de la zone concernée. Alors, je dis n'importe quoi, une brûlure, une plaie, une arthrose. Voilà, je vais travailler d'abord sur la zone concernée et ensuite j'irai travailler sur les méridiens correspondants. En fait, que ce soit en acupuncture, en acupression ou en chromathérapie, le principe pour un traitement global, qu'il soit physique ou psychologique, ça consiste à aller solliciter des points bien connus, donc les fameux points d'acupuncture. La différence entre les trois techniques, si vous voulez, c'est l'outil utilisé. En acupuncture, l'acupuncteur va utiliser des aiguilles de différentes longueurs pour aller stimuler les zones ciblées. En acupression, ce sera donc de la pression avec les doigts qui sera exercée de façon plus ou moins forte pour aller stimuler ces mêmes zones. Et en chromathérapie, on va utiliser les différentes longueurs d'onde exactement de la même façon qu'on le ferait avec des aiguilles d'acupuncture de taille différente.
D'accord.
Voilà, en gros. Donc ça, c'est la base, hein, c'est pendant un traitement global et quand on traite sur une zone lésée directement, donc on travaille vraiment sur la zone où là, c'est un traitement qui est indolore. Donc, je peux vraiment aller directement sur le bobo,
oui,
sur la plaie, voilà, pour aller faire réagir le plus rapidement possible l'organisme. Voilà, donc, pour faire une petite illustration, si on prend par exemple, je ne sais plus ce qu'on avait dit, enfin bref, la couleur orange, au niveau psychologique, on va l'utiliser pour apporter de l'enthousiasme, de l'optimisme, aller de l'avant, etc. Alors que sur un effet, sur une lésion, on va l'utiliser pour ses effets apaisants et rafraîchissants.
Ah oui, d'accord. C'est presque l'inverse. Voilà. Enfin, c'est presque. Elle a presque une qualité, enfin pas inverse, mais vraiment très différente entre le côté contraire.
Voilà, le psychologique. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc oui, les couleurs, une même couleur peut être utilisée sur tous les animaux. Oui, elle aura globalement des effets similaires, mais en fonction de son application, ça va être différent en fonction d'un problème physique ou d'un problème psychologique.
D'accord, ouais. Et vous coupez, enfin après il y a on coupe, enfin il y a un travail sur plusieurs couleurs pour tel problème. On peut.
Alors en règle générale, il y a toujours une application de deux couleurs, donc les couleurs complémentaires.
D'accord.
Donc avec le orange, on va travailler avec le bleu. Ou si on travaille avec le bleu, on va terminer par le orange. Le rouge, ça va être avec le vert ou le vert avec le rouge. Voilà, il y a toujours une association d'une couleur principale et de sa complémentaire.
Et sa complémentaire, c'est pour renforcer l'effet ou l'atténuer ou le.
Alors, tout dépend de ce qu'on va rechercher. Tout dépend si on travaille sur du superficiel ou sur du profond. Voilà, ça va être en permanence jonglé sur les deux couleurs qui nous intéressent par rapport à une certaine pathologie, en fonction de sa situation.
D'accord. Mais en général, c'est toujours deux couleurs, alors.
Enfin,
et
générale,
sa complémentaire, d'accord.
Voilà,
d'accord.
C'est une couleur et sa complémentaire.
D'accord.
Voilà. Et lors d'une séance, alors je ne sais pas, imaginons un animal qui a plusieurs pathologies différentes, on va en traiter grand maximum trois. Moi, je n'aime pas en faire trois.
Oui, trois, c'est beaucoup, oui.
Oui, voilà. Donc, une, deux pathologies sur une séance et puis on fera les autres plus
d'accord.
tard, on va faire dans l'urgence. Mais voilà, on essaie de ne pas donner trop d'informations encore en même temps.
Oui, oui. refait une toute petite pause et on reprend tout de suite après.
D'accord, très bien. À tout de suite.
À tout de suite.
Tirons les cartes, changeons les noms, passons du mime à l'action. Une course folle, le coup de la panne, et tout ça pour vous, madame. Je n'entends pas l'appel de l'amour, mis à part toi et ta voix de velours qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Mais dois-je t'aimer quand même? Séchons nos larmes et prenons nos marques. Déposons les armes et quelques claques. Au bout du compte, rien de personnel. Et tout ça pour vous, mademoiselle. Je n'entends pas l'épreuve de l'amour, mis à part toi sur la voie du secours qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Mais dois-je t'aimer quand même? De faire le mur, comme avant, un peu moins sûr. Gardons le cap puisqu'elle est presque belle. Et tout ça pour vous, mademoiselle. Je n'entends pas l'ivresse de l'amour, mis à part toi, évidemment, qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Mais devrais-je t'aimer quand même?
Donc on reprend notre entretien avec Marie Grimmer, thérapeute pour animaux, et on va chromothérapeute pour animaux. Chromathérapeute pour animaux. Et donc on a parlé de voilà, des couleurs en elles-mêmes, de leurs caractéristiques. Est-ce qu'on aborde maintenant une séance sur le déroulement d'une séance? Voilà, donc voilà, comment ça se passe, comment se déroule une séance avec un animal? Et est-ce que c'est différent suivant les animaux, d'ailleurs, les séances ou pas, déjà?
Alors, oui, c'est différent selon les animaux, puisqu'effectivement, je ne vais pas pouvoir les voir dans le même cadre. Lorsqu'il s'agit d'animaux de ferme, eh ben, il faut que je fasse avec l'étable, avec la bergerie, avec le box. Voilà, donc c'est jamais tout à fait la même chose. C'est aussi en ça que c'est intéressant. Lorsqu'il s'agit d'un chien, d'un chat, voilà, c'est la plupart du temps à domicile, donc dans un lieu que l'animal connaît. Voilà, donc je m'adapte au cas en fonction de l'animal et de son environnement. Puisqu'en fait, moi, je travaille aussi bien sur les animaux des villes, donc chien, chat, furet, rat, hamster, etc., que sur les animaux des champs, on va dire, les chevaux, les ânes, les vaches, les chèvres, les brebis, les cochons, etc. Et j'ai eu l'occasion de faire quelques animaux sauvages de type oiseau, renard, chevreuil, singe, ocelot et autres félins. Voilà. Donc c'est vrai que tous ces animaux-là ne s'abordent pas de la même façon. On n'aborde pas un renard de la même façon qu'un chat, bien évidemment. Néanmoins, il y a une base commune. La base commune, c'est déjà une prise de contact avec l'animal. Alors, soit il y a un propriétaire ou un soigneur qui va pouvoir me présenter l'animal et sa problématique, bien entendu. C'est ce que je préfère parce que se retrouver seul avec l'animal, c'est pas forcément idéal dans un premier temps, c'est idéal après, mais pas au démarrage, puisque j'ai quand même besoin de connaître l'origine de la lésion, depuis quand il y a cette problématique, etc. Donc c'est quand même mieux si j'ai quelqu'un avec moi au départ. Pardon. Voilà, cela dit, après cette présentation par le propriétaire ou par le soigneur. Donc j'essaie autant que possible d'avoir un moment seul avec l'animal, dans un lieu calme, idéalement dans la pénombre, hein, pour vraiment créer un environnement propice à un échange, à une forme d'entente qui va nous permettre de travailler ensemble en toute confiance. Alors, c'est vraiment... il y a une dimension qui est ultra importante, c'est l'intention. L'intention que je mets dans mon soin qui doit être sentie par l'animal. C'est vraiment un soin qui requiert une forme de consentement de sa part. Exactement comme en acupuncture chez les humains. On sait pourquoi on y va, on sait ce qu'on en attend, ce qu'on recherche et ce qu'a nous proposé l'acupuncteur. Là, il faut exactement de la même façon que l'animal sache pourquoi je suis là, ce que j'ai à lui apporter et quelle est ma place, quelle est la sienne. Mmh. Donc tout ça, c'est un travail de base qui est indispensable avant d'entamer tout traitement. Voilà. L'animal, quel qu'il soit, doit accepter mes soins et moi, en échange, je dois être capable de comprendre, d'interpréter ses réactions. Mmh. Comme un humain me dirait ce qu'il perçoit, l'animal, lui aussi, va me communiquer son ressenti et me permettre de m'adapter. Donc, c'est vraiment un lien qui doit se créer entre nous. Excusez-moi.
Et si c'est un problème physique, ça veut dire que vous passez la main là où il est sensible. Bon, si c'est un problème psychologique, c'est plus difficile. Voilà. Mais si c'est un problème physique, ça veut dire que vous lui faites comprendre que ça va être cette partie du corps qu'on soigne ou.
Alors, déjà, je vais voilà. Ce qui est important, c'est qu'il mesure bien que je ne suis pas là pour lui faire mal, que je suis là pour l'aider. Ça, c'est vraiment la base. Oui. Une fois qu'on a cet état de confiance, même si elle est limitée, même si elle est furtive, là, je vais pouvoir commencer à vraiment établir un contact par le biais de caresses sur l'ensemble du corps pour établir le contact, mais aussi de façon à rechercher des points de sensibilité particulière, des tensions, des réactions, l'effleurement, et plus généralement des peurs, des inquiétudes, des douleurs, etc. Donc ça va me permettre de me renseigner vraiment sur l'état général, que ce soit physique ou psychologique, de l'animal, et commencer le travail proprement dit. Donc une fois que j'ai établi ce premier cette première étude, on ne va pas parler de diagnostic, mais d'études. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis rien de tout ça. Donc c'est vraiment une étude. Ouais. Ouais. Donc une fois que ceci est passé, je commence à préparer les points cibles par de l'acupression, en fait, pour commencer à accéder aux méridiens et à les solliciter. Et dans un deuxième temps, ensuite, je vais pouvoir appliquer mes lampes qui sont équipées de filtres spécifiques sur ces points d'acupression ou d'acupuncture et également sur les zones concernées.
D'accord. Et c'est des petites lampes, alors c'est au niveau, c'est des... Chaque lampe, enfin chaque couleur a sa petite. Ah non, c'est un filtre que vous changez.
Alors j'ai des jeux de lampes différents, donc je n'ai pas besoin de changer mes filtres.
D'accord.
Les filtres en fait sont calés sur des longueurs d'onde spécifiques dont j'ai besoin.
D'accord.
Voilà. Donc ensuite je vais travailler avec chacune de mes lampes. Alors j'ai des petites lampes pour les petites zones ou les points d'acupuncture. Mmh. Et j'ai des lampes qui sont de taille supérieure pour des zones.
Type, oui, voilà, oui, pas, c'est ce que vous disiez. Ouais.
Voilà, en fonction de la problématique.
D'accord.
Voilà, et une fois que j'ai effectué ma chromatographie sur les points que j'avais ciblés au départ, la séance se termine par un massage de réconfort, de récompense, de voilà, massage, détente, bien-être. On se remet de tout ça parce que bien que ce ne soit absolument pas douloureux, on va reprendre notre exemple du orange qui lui va venir faire de la fraîcheur et apaiser, il y a une réaction de la peau. Donc avec certaines couleurs, les animaux vont avoir comme des chatouilles. Avec une autre couleur, ça sera des petits picotements, ils vont se lécher. Voilà, à chaque couleur, il va y avoir une réaction différente de l'animal.
D'accord. Et puis le corps qui se...
une douleur.
Et le corps qui se réorganise, donc c'est toujours fatigant. Enfin voilà, il y a quand même un travail interne au niveau du corps.
Tout à fait.
Voilà,
tout à
donc il y a toujours...
Mais c'est pour ça qu'il est nécessaire de terminer ensuite par
un moment de détente. Et après, vous faites plusieurs, pour un même problème donné, vous faites plusieurs séances de...
Alors ça, c'est vraiment en fonction de la problématique. Je ne sais pas, imaginons une cicatrice disgracieuse ou gênante parce qu'elle est au niveau de la selle d'un cheval ou voilà, quelque chose de très ancien, ça va nécessiter effectivement plusieurs séances pour arriver à réassouplir la peau, refaire pousser le poil, etc. Par contre, sur des cas de dépression ou des choses très fraîches, oui, là, on va pouvoir ne faire qu'une seule séance.
D'accord. Donc, même pour un cas de dépression ou de stress, une seule séance peut suffire. Pas forcément,
En fonction de l'animal, ça peut être suffisant, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Après, voilà, vraiment chaque animal.
Oui, est différent. C'est un individu différent. Donc,
qui va réagir différemment en fonction de nos sentiers communs déjà, puisque tout dépend de la confiance qu'il va m'accorder, du travail qu'il va me laisser faire et également de son organisme, de son métabolisme. Ouais.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement tous les bienfaits qu'on peut avoir sur l'acupuncture, c'est très difficile avec un animal, parce que pour lui, une piqûre, c'est quand même quelque chose de très agressif et il va pas forcément comprendre que c'est pour son bien tout de suite. Alors que là, on peut vraiment, c'est ce que vous dites, c'est pas douloureux. Donc ça ouvre vraiment des perspectives d'acupuncture en fait, sans les aiguilles, pour un animal c'est très intéressant quoi comme technique comme
en fait oui
comme
c'est
méthode.
ça qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est pas douloureux, c'est pas invasif, c'est pas effrayant. Il n'y a pas 36 milliards de matériel. De toute façon, quand j'arrive, le matériel est posé à hauteur de l'animal de façon à ce qu'il puisse le sentir, le mordiller. La plupart des chiens mordent mes lampes. Peu importe. Il faut qu'il fasse connaissance. Donc il n'y a rien d'effrayant et il n'y a rien de douloureux. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant pour les animaux.
Et c'est vrai que là, par pression, si c'est une, si physiquement c'est une zone malade ou avec blessure, on peut pas par pression. Alors que là, on peut.
L'acupression, moi, vraiment, je la réserve au point d'acupuncture des méridiens. Je ne l'applique jamais sur une lésion. Ouais. La lésion, ce sera uniquement de la lumière.
D'accord. Uniquement. Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout.
C'est très, très intéressant.
Je ne connaissais pas du tout.
C'est peu connu. Alors, un petit peu plus chez l'humain, bien qu'il y ait des confusions avec ce qu'on appelle la luminothérapie. C'est encore autre chose, puisque ce sont des bains de lumière. Il y a eu la grande mode des lampes avec la lumière du jour. Ou les lampes pour stimuler le lever du soleil avant que le réveil ne sonne. Tout ça, c'est de la luminothérapie. C'est pas appliqué sur une zone. La chromathérapie est vraiment sur la zone ou sur des points d'acupuncture. Et vraiment, j'admire le docteur dont je parlais tout à l'heure, le pédiatre, le docteur Paglamenta, qui fait une démarche de vulgarisation qui est très, très, très importante, je trouve, pour que de plus en plus de gens s'emparent de techniques comme celle-là. Alors, il y a la chromathérapie, mais il y en a d'autres techniques qui sont non invasives. Et qui sont, de toute façon, même si elles ne sont pas... ce n'est pas la solution à privilégier dans une urgence, bien entendu. dans une urgence, c'est l'hôpital pour l'humain, c'est le vétérinaire pour l'animal. Mmh. Voilà, la chromathérapie ne viendra pas sur une urgence. Elle peut être une aide en attendant que le vétérinaire arrive ou en attendant d'aller à la clinique vétérinaire, mais elle va pas régler une plaie qu'il faut suturer, elle va pas régler une fracture, elle va pas. Voilà, il y a des tas de choses sur lesquelles on peut venir vraiment en toute première intention avant la visite véto, mais sinon on peut venir en complément du vétérinaire, donc on va accélérer les processus de guérison. On va soulager l'animal le temps de la cicatrisation ou le temps de la convalescence, peu importe. Voilà, donc ça, c'est
oui, puis ça peut, si on est sur des vétérinaires qui sont intéressés par ces méthodes, ça peut être aussi, peut-être, je dirais, un complément intéressant pour éviter des médicaments aussi, si le vétérinaire, en accord avec le vétérinaire. Mais si on voit,
voilà, bien entendu,
je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir, voilà, le moins de prise de médicaments possible pour l'animal. C'est vraiment intéressant aussi de ce point de vue-là.
Oui, tout à fait. C'est très intéressant à ce niveau-là. Mais c'est aussi, j'aurais tendance à dire, surtout intéressant en préventif.
Oui.
Avant les changements de saison, avant un gros changement. Je ne sais pas moi, une jument qui va partir pour devenir poulinière, avant une naissance, après une blessure et au moment de la remise au travail. Voilà, pour avant une compétition, je ne sais pas, de modèles et allures pour des chevaux, pour des chiens, pour des chats, peu importe. Ouais. Alors, en prévention, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, donc en fait, ça peut venir en première intention, en complément d'un traitement allopathique classique, en soutien à la fin d'un traitement, en prévention lors des changements de saison ou autre, et lors de perception de troubles du comportement, d'un changement, d'une perte de poids, d'une perte d'appétit, ou au contraire d'une prise de poids importante. Voilà, il y a toute une palette de choses sur laquelle la chromathérapie peut agir en complément de soins classiques.
D'accord. On fait juste une pause et on reprend tout de suite après.
D'accord.
À tout à l'heure.
Ton corps anorexique au rayon X me cache sous une voix cristalline, hanté d'ennui et de pulsion dans mon âme. Petite fille, tu m'apparais en hologramme. Tes mains de glace me brûlent le cœur. La voix qui saigne, Alice, je t'aime. Alice, c'est moi, mais tu ne me vois pas. C'est le son de mes larmes qui glissent. Alice, c'est moi, mais tu ne le sais pas. Quand le son de nos âmes me fixe. Alice. Paralyse mes sens primaires, contrôle mes nerfs de la folie, rends-moi mon âme. Petite fille, tu m'apparais en hologramme. Tes mains de glace me brûlent le cœur. La voix qui saigne, Alice, je t'aime.
Entretien avec Marie Grimmer, chromathérapeute pour animaux. Et Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que de plus en plus, les méthodes alternatives, les méthodes qui étaient, voilà, qui auxquelles beaucoup de d'humains ont recours, s'appliquent, soit de plus en plus aussi appliquées sur les animaux. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, ils ont peut-être encore plus la faculté de les percevoir, de mieux les percevoir, parce qu'ils n'ont pas toute cette derrière eux, toute cette culture, et puis plein de choses qui nous bloquent, des parasites, des éléments parasites qui nous bloquent parce que voilà, il y a on va raisonner sur le fait que peut-être que voilà, alors que un animal va percevoir de façon plus immédiate les bienfaits, je pense, de...
Tout à fait. Il n'a pas la barrière culturelle, effectivement. Il n'a pas d'a priori.
Oui. Ouais.
Lui, que ce soit des lampes ou autre chose, voilà, ça n'a pas plus de sens l'un que l'autre. Son corps va prendre le soin comme il prendrait une pommade classique. Mmh. Enfin, peu importe, il n'y aura pas de jugement derrière. Mmh. Simplement, le fait que ce ne soit ni douloureux ni invasif va être très confortable pour lui.
Ouais, ouais. Donc, ouais. Je crois que c'est important que ça puisse, que ça s'étende pour des techniques pour toutes les espèces animales. Je crois que c'est vraiment, vraiment une évolution qui est importante pour eux, je pense.
Qui est importante pour eux, on voit. Alors, sans faire de polémique ni rien, mais on voit bien les problèmes liés aux multiples vaccinations, on voit bien les problèmes sanitaires liés à des traitements. On est conscient que toute cette chimie pourrit nos organismes, pourrit les cours d'eau, pourrit le... Voilà. Et je pense que cette prise de conscience est faite pour la plupart des individus et le fait de passer sur des médecines alternatives ou sur des aides de ce type-là devient quelque chose de normal et de naturel pour les gens.
Et surtout, que ça s'étende enfin, parce que c'est vrai qu'avant, pour les animaux, on songeait pas. Et ça, je crois que pour eux, c'est pareil. À mon avis, hein, ça peut leur apporter que vraiment beaucoup de bienfaits, aussi bien physiquement que psychologiquement, je pense.
Que psychologiquement. Ouais. Ouais. L'aspect psychologique est important parce qu'on arrive vraiment à des résultats très, 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 très marqués par la chromathérapie.
Et puis ça va plus loin parce que c'est aussi tout cet échange que toute cette communication qu'on n'a pas forcément par le langage, par la parole. Ça peut aussi faire prendre conscience aux gens que oui c'est quelqu'un qu'ils ont en face d'eux, c'est un individu qu'on peut communiquer autrement, qu'on a plein de différences mais tant mieux, et qu'on a aussi plein de points communs. Et c'est aussi un moyen de peut-être de sensibiliser les gens au fait que leur chien est un individu, c'est quelqu'un, et qu'il y a plein de façons de communiquer avec lui et de lui apporter du réconfort, en fait.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'il y a une dimension qui est vraiment importante dans ces démarches, je pense.
C'est ça, c'est le respect de l'autre pour ce qu'il est, le respect d'autrui, le respect de la nature, le respect du rythme de chacun, du rythme des choses, du rythme de... Ouais. De la maladie, de la guérison. Il y a des choses qu'il faut accepter, mais on peut les accepter de différentes façons. On peut les accueillir de différentes façons. Ouais. Ces médecines alternatives permettent effectivement de changer de regard.
Voilà, puis
sur la maladie, sur la guérison, sur l'accompagnement. C'est extrêmement important. Et fort heureusement, c'est... actuellement, on va vraiment dans le bon sens par rapport à
je pense.
En France, au moins.
On peut,
ou en Suisse, ou dans certains pays comme ça. La Suisse aussi est très en avance au niveau de la chromathérapie sur les animaux.
D'accord.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas en France, puisque c'est vraiment. On n'est pas très nombreux. En Suisse, c'est beaucoup plus étendu.
On parlait de la France, des autres pays. Peut-être qu'on peut voir un petit peu, voilà, par rapport au problème des galgos, parce qu'on en avait, je pense que vous connaissez Monica de l'association Ayuda.
Tout à fait.
Voilà, que vous alliez en Espagne aussi, et que vous avez découvert un petit refuge qui est, et je pense que c'est bien d'en parler pour essayer de leur venir en aide, en fait. Voilà, donc je vous donne la parole.
Tout à fait. Alors, effectivement, oui, je suis impliquée dans une association de protection des galgos, donc des lévriers espagnols. Il faut savoir que les lévriers espagnols sont utilisés pour la chasse. Donc, c'est une forme de chasse particulière qui se fait sans armes. Ce sont deux lévriers qui sont lâchés ensemble et c'est le premier qui attrape le lièvre qui a gagné. Lorsqu'il a gagné, il refait une épreuve avec un autre galgo, etc. etc. Tout ça sous un soleil de plomb. Et malheureusement, le chien qui perd et qui déshonore son propriétaire subit une vengeance de la part de son propriétaire. Donc ça peut aller assez loin. Donc de ce fait, il y a environ 50 000 galgos qui sont soit tués, soit maltraités en Espagne chaque année.
Torturés, même, on peut appeler ça de la torture, je pense.
On peut l'appeler comme ça. Mmh. Après, de la torture, donc c'est vrai qu'il y en a sur les galgos, c'est une réalité. J'ai passé quelques temps là-bas à fouiller de refuge en refuge et à parler avec des associations de protection, mais également avec des gens dans la rue. Pour la plupart des gens, c'est scandaleux, mais pour une petite minorité, mais qui est quand même énorme en Espagne, c'est normal, c'est la coutume, c'est comme ça. Puis le galgo n'est pas un animal de compagnie, c'est un outil de travail. Donc un outil qui ne marche plus, on le jette. On le jette soit à la casse, soit on le ramène pour du recyclage, peu importe. Mais ça reste un outil de travail. Donc forcément, il n'y a pas cette empathie que l'on a, nous, pour les chiens. Bien que beaucoup d'Espagnols commencent à se mobiliser, peut-être moins que les Français encore, je ne sais pas. Mais il y a des Espagnols qui créent des refuges, qui font des choses vraiment, vraiment remarquables pour essayer de faire changer les mentalités, pour essayer de faire un petit peu évoluer cette chasse qui, en elle-même, n'est pas monstrueuse, si ce n'est les entraînements qui sont inadaptés, excessifs et extrêmes. Donc ça sera modifié et le traitement qui est réservé aux galgos qui ne conviennent pas ou qui ont déçu leur propriétaire. Donc ça, c'est vrai en Espagne. Malheureusement, c'est en Angleterre, les lévriers sont aussi utilisés pour les courses. Alors, ils ont aussi des entraînements qui sont extrêmement contraignant, intensif et inadapté. Néanmoins, les chiens ne sont pas battus, on va dire.
D'accord, ils ont une faim.
En fin de carrière, ils sont entassés dans des camions et ils partent dans les pays de l'Est pour être mangés. Donc, c'est pas beaucoup mieux. Ouais.
La petite assoce, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, peut-être développer la petite assoce que vous avez découverte en Espagne.
Alors c'est un petit refuge qui a été créé par trois jeunes Espagnols qui ont en gros 25 ans, les trois, qui n'ont aucune aide. Simplement, la mairie leur a laissé l'accès à un bâtiment. C'est la seule aide qu'elles aient. Elles ont actuellement 25 chiens à peu près. Alors, il y a beaucoup de galgos, mais il y a aussi des chiens de chasse et des petits croisés et des chiens de combat, puisque c'est aussi un fléau en Espagne. Et ce sont trois filles qui n'ont donc absolument aucune aide. Elles font manger les chiens avec leur salaire respectif, puisqu'elles travaillent toutes les trois à l'extérieur. Et elles sont extrêmement présentes avec, avec ces chiens du refuge. Elles y passent à tour de rôle plusieurs heures dans la journée. Elles passent énormément de temps à jouer avec eux. Ce sont des chiens qui sont arrivés traumatisés, terrorisés, blessés, et qui aujourd'hui, quand on rentre dans le refuge, ces chiens sont joyeux, ils ont des jouets, ils remuent la queue, ils viennent faire des câlins, ils s'approchent de l'homme, ils n'ont pas peur. Elles ont fait un boulot absolument extraordinaire. Donc ces filles-là, effectivement, qui n'ont aucune aide, m'ont énormément touchée. J'en ai donc parlé à l'association Ayuda, donc par le biais de sa présidente Monica, qui a décidé de venir en aide à ce petit refuge. Donc on repart là au mois d'août pour apporter des paniers, des couvertures, du brise-vue pour essayer de faire de l'ombre, parce qu'on parle d'Andalousie, de 45 degrés et de sol en béton, donc très, très chaud, très agressif pour les coussinets des chiens. Enfin, c'est vraiment compliqué.
Et au niveau des auditeurs, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce qu'on, par exemple, si des auditeurs veulent faire des dons, on passe par Ayuda ou au niveau du podcast? Moi, je vais mettre plein de références. Donc,
Effectivement. Si les auditeurs ont envie de participer, alors il y a ce voyage-là au mois d'août, mais il y aura d'autres voyages ultérieurement. Le but est d'amener du matériel, des produits vétérinaires, des croquettes, des couvertures, des manteaux pour les chiens. Voilà, préparer l'hiver parce que l'hiver est rude. Mais l'hiver est rude. Donc, effectivement, se rapprocher d'Ayuda,
d'accord,
voir comment ils peuvent participer. Il y a également des collectes qui sont faites, des collectes de matériel de bureau, c'est-à-dire crayons, correcteurs, voilà. Toutes ces choses-là qui sont à collecter, et Ayuda après se charge de les envoyer pour récupérer de l'argent en échange, pour envoyer dans des refuges.
D'accord, donc de toute façon, les auditeurs, ils passent par Ayuda, il y aura de nouveau, on avait fait une émission avec Monica, mais je remettrai pour cette émission les références, et on envoie en précisant que bon, c'est pour l'association en Espagne.
Voilà.
D'accord.
Alors, il est très difficile de travailler avec des petits refuges comme ça, parce que on peut rapidement mettre les animaux en danger, parce qu'il y a des rivalités, parce qu'il y a des jalousies, parce que c'est très compliqué. Donc, effectivement, il n'y aura nulle part le nom
d'accord.
de ce petit refuge.
D'accord. Donc, on
par
nous,
mesure
on
de
entend,
protection
voilà.
pour
auditeurs,
les filles
ouais,
et
d'accord.
pour voilà.
D'accord. Donc, Monica, après, se charge de dispatcher à ce refuge. OK. Oui. On va arrêter l'entretien, parce que je m'aperçois qu'on est limite dans les temps. En tout cas, d'accord. merci, vraiment, merci beaucoup. Et je vais mettre les coordonnées, alors vos coordonnées, de toute façon, sur le podcast. Ceux d'Ayuda.
Oui.
Donc, de toute façon, vos coordonnées, on va quand même le dire à l'antenne, c'est Marie Grimmer.
Oui.
Un numéro de téléphone, un site...
Alors, ou mon adresse mail, c'est plus simple, ou la page Facebook qui s'appelle Chrome Animal.
D'accord. OK. Mail.
Et l'adresse mail,
d'accord.
c'est chromeanimal@gmail.com.
Ok, mais on fait comme ça. Encore merci.
Voilà. Avec grand plaisir, juste pour finir.
Oui.
Là, moi, c'est vrai que je suis sensible au sort des galgos. Néanmoins, partout dans le monde, des animaux sont en souffrance.
Bien sûr. Ouais.
Il y a besoin que les gens se mobilisent, que ce soit pour nos élevages français de visons qui sont pitoyables, ou de porcs, ou de vaches, ou peu importe. Dans le monde entier, il y a des animaux qui souffrent. On peut, chacun à son niveau, faire un petit truc. Même si ce n'est pas énorme, on ne sauvera pas le monde, mais on peut sauver quelques animaux.
Tout à fait, entièrement d'accord. Super, merci beaucoup pour cette remarque.
Avec
hyper
grand plaisir.
Importante. Ouais, merci, essentielle même. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Bonne journée, et puis de toute façon, à très bientôt.
D'accord,
merci.
À bientôt.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir. Donc on va se quitter pour un mois. On se retrouve en septembre. N'hésitez pas à consulter le podcast « Combien de temps encore ?» sur CFM Radio. Parce qu'en général, je mets des compléments par rapport à l'émission et des contacts. Voilà. Notamment celui de Marie Grimmer et des actualités ou des sites ou des livres à consulter ou à lire. Bonne fin de soirée et à bientôt.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.